L'aime. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'Aime, l'émission, le magazine de Radio Évasion qui reçoit des associations du Finistère et même de toute la région. Parmi celles qu'on reçoit régulièrement, il y a Lain et Chanvre en Bretagne, dont l'intérêt est de se tourner à la fois vers le passé, le patrimoine lié à ces deux cultures qui ont marqué l'économie locale pendant plusieurs siècles. Et Lain et Chanvre en Bretagne se tournent aussi vers le futur, car ces deux plantes, le lin et le chanvre, sont pleines d'avenir. Vous pouvez réécouter par exemple l'émission qu'on avait faite la saison dernière sur les matériaux créés à partir de lin ou de chanvre, les utilisations qu'on peut en faire. Aujourd'hui, on va retourner à la source, dans les champs. Mais on est bien au présent, puisque deux producteurs de lin sont avec nous, Guillaume Leture et Benjamin Raoul. Bonjour.
Bonjour.
Et François Dobinski, le directeur de l'association Lin et Chanvre en Bretagne, est là aussi. Bonjour.
Bonjour.
On va commencer déjà par nos deux producteurs. Alors pourquoi est-ce que vous avez souhaité produire du lin ? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu le contexte ? Vous étiez déjà dans l'agriculture ou pas ? Alors, je ne sais pas. Guillaume Leture, allez-y.
Oui, le contexte du lin remonte à quelques années pour ma part. C'est le fait d'avoir lu beaucoup de choses sur l'histoire de la Bretagne, notamment les enclos paroissiaux. Et depuis mon installation aussi en tant qu'exploitant agricole, il se trouve que j'ai une parcelle où se situe un candi.
Un candi, alors on en a parlé sur Radio Évasion, mais c'était en fait une maison où on blanchissait la fibre de lin avant de la transformer en tissu.
Exactement. Et il est très bien rénové, donc voilà, toute cette histoire-là m'a inspiré. Et puis il y a eu la dynamique de l'appel de la députée aussi qui a permis de...
Sandrine Lefeur, avec qui on a parlé aussi. Et vous étiez, sinon, vous cultivez quoi d'autre à part du lin ? Enfin, vous élevez des animaux peut-être ? Qu'est-ce que vous faites sinon ?
Non, pour ma part, c'est juste des céréales bio et voilà, donc pas d'animaux, non.
Et donc vous êtes en bio ? Et ça, c'était important, enfin, par rapport à la démarche du lin aussi ou...
Non, c'est complémentaire, c'est-à-dire qu'on a, c'était une volonté de lancer en bio et en conventionnel en même temps. Et, voilà. Moi, étant donné que mon exploitation était en bio, c'était de toute façon naturel que le lin se passe en bio.
Et vous, Benjamin, quelle était votre démarche ?
Ma démarche sur le, sur le projet, pardon, c'est Guillaume Leture du coup, qui est venu vers moi dans un premier temps pour me proposer de travailler avec lui sur le projet du lin, car c'est un projet qui demande quand même pas mal de travail et de réflexion. Donc je l'ai rejoint. Et ensuite, on a travaillé du coup ensemble et sur l'exploitation. je suis aussi dans l'agricole, pardon, avec mon père, du coup, sur une ferme familiale.
Vous êtes déjà exploitant vous-même,
oui,
à Comana.
Moi, je suis pas encore installé, je suis salarié pour l'instant.
D'accord.
Et donc, en accord avec lui, et on a travaillé donc sur le côté conventionnel, sur mon exploitation, du coup, avec Guillaume.
D'accord, parce que vous avez aussi une parcelle où on met du lin, c'est ça ?
Oui, on a fait 8 hectares à peu près, un peu plus en totalité, 4 hectares en conventionnel chez moi et 4 hectares chez Guillaume en bio.
Ah oui, c'est assez intéressant de mener les deux parallèlement. Enfin, c'était quoi l'idée, Guillaume Leture ?
L'idée, c'est comme dans l'association, c'est de recouper toutes les agricultures. On ne souhaitait pas faire de différence et... moi, voilà, étant donné que j'étais en bio, c'était naturel aussi pour moi qu'on le fasse en conventionnel. Quoi. Autant pour assurer une sécurité aussi sur la production de lin de cette première année, parce qu'en bio, on n'est jamais sûr de ce qu'on va récolter. Et puis, parce que ça me semblait naturel. Aujourd'hui, les surfaces sont plutôt en conventionnel.
Le lin, par exemple, qui est cultivé en Normandie, c'est surtout du conventionnel, c'est ça ou pas ?
Oui. Peut-être que François a plus les chiffres que moi, mais il me semble que le bio est dérisoire.
François Dobinski, de l'association Lain et Chanvre, qui sait tout.
Non, moi j'ai pas les chiffres, mais effectivement c'est essentiellement du conventionnel en Normandie, et comme dans les Flandres en fait, qui sont les deux régions de production majeures en fait pour le lin textile.
Oui.
Majeur oui. Pour le moment.
Oui.
Parce que, en fait, c'était surtout pour nous, en tout cas en tant qu'association, ce qui était vraiment très important et très intéressant, c'est que c'est la première fois qu'on cultive du lin textile en Bretagne.
C'était la question que j'allais poser.
Voilà, depuis les années 60 à peu près. Donc c'est un renouveau. André Le Gall-Sanquer, notre présidente, est pas là, mais quand ils ont créé l'association, c'était déjà le rêve, en fait. C'était de voir revenir cette culture en Bretagne qui a fait tant pour la Bretagne et qui pourrait faire encore beaucoup.
Vous avez créé une association, vous l'avez mentionné d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est exactement cette association ?
C'est une association qui regroupe les agriculteurs du coup de la commune de Comana, qui nous permet de communiquer en fait aux habitants de la commune. Notamment, on a réalisé avec Benjamin la fête du lin, donc qui a permis de communiquer à l'ensemble de la commune et aux alentours notre expérience sur cette année. Et,
c'était quand la fête du lin ?
Le 1er août cette année.
D'accord.
Et voilà, c'était. L'association sert à ça et à réaliser d'autres opérations donc alimentaires sur des événements de la commune.
Parce que vous êtes pionnier dans le lin, mais peut-être que dans votre association, il y a d'autres agriculteurs qui essayent des cultures pionnières, enfin, ou qui, non, qui font des expériences comme ça, un petit peu plus osées que...
Pas à ma connaissance, mais peut-être.
Non, je n'ai pas non plus de la connaissance. Par contre, c'est vrai que c'est un groupe très intéressant. Et plusieurs démarches sont en cours, entre autres aussi une démarche de gestion du bocage et valorisation du bois en plaquette énergie.
Ah oui.
L'ensemble des agriculteurs sont quand même assez ouverts et portés sur l'avenir aussi.
Oui, c'est ça. Oui, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a plein de cultures potentiellement, il y a plein de filières qui pourraient se développer, pas seulement alimentaires d'ailleurs, mais en tout cas agricoles. Donc, est-ce que les terres de Comana, alors on va peut-être rentrer un peu dans la technique maintenant sur comment est-ce qu'on cultive du lin. Alors, est-ce que, donc c'est peut-être Guillaume Le Turc qui va m'expliquer, vous êtes du coup documenté, je suppose. Comment est-ce que vous avez fait pour savoir comment est-ce qu'on cultive du lin ?
Alors, ça a l'air assez vite. Hein. On a été déjà, je préfère le rappeler quand même, on a été très très soutenu par le groupe Dépestel qui nous a aidé et qui va donc reprendre la fibre de lin.
Qu'est-ce que c'est le groupe Dépestel ?
C'est des Normands qui ont donc une usine de théage, donc de première transformation du lin, qui est basée en Normandie et qui nous a permis de réaliser correctement cette première année en suivant la culture. Et aussi donc, en assurant le débouché, en fait. Donc, c'est déjà une chose très, très importante.
Donc ça, c'était un préalable. En fait, avant de vous lancer, il fallait que vous soyez sûr d'avoir un débouché.
Voilà, c'est ça. C'était trouver les bonnes personnes avec qui travailler voilà, pour que ça se passe au mieux. Et voilà. Donc après, le déroulement de la culture, ça s'est fait quand même relativement bien, on va dire. Alors après, on peut parler de chance du début des débutants ou autre chose. Mais
vous êtes quand même allé voir, par exemple, en Normandie, comment ça se passait ou comment vous avez fait, en fait, pour vous former vraiment à la culture proprement dite ?
Non. C'est-à-dire que le déroulement du projet a été assez rapide. Moi, j'ai pris la décision de lancer le projet en 2020. Et donc, début 2021, on a été chercher les graines déjà ensemble avec Benjamin. Et à partir de là, on a commencé à se renseigner et voilà, à lire beaucoup de choses. On a été quand même beaucoup suivi par rapport notamment à une personne qui s'appelle Patrick du taillage, qui nous a aidé sur la technique en fait, de la culture. Quoi. Donc, sur les amendements, les dates de semis, tout ce qu'il y avait à réaliser de très technique. Parce qu'on peut pas, c'était pas facile de l'apprendre par la biblio, en fait, suivant les années, météo, tout ça, c'était un petit peu compliqué.
Et le choix des graines, donc il y a des graines en bio, des graines en conventionnel. Les fournisseurs étaient le même. Enfin, comment ça s'est...
L'ensemble des graines sont donc en bio, pardon. On a fait le choix du coup de prendre l'ensemble de semences biologiques. Pour une question logistique, c'était plus simple en fait. Sur une très peu de commandes, sur une petite commande, on est resté l'ensemble des graines en bio.
Oui. Et c'est qui alors le fournisseur ?
C'est une coopérative. Terre de Lin.
Ouais.
Et c'est en Normandie aussi, non ?
Oui, dans les Hauts-de-France plutôt. Ouais.
Ah oui,
en
d'accord.
Fait, c'est
l'autre région du lin, quoi.
Oui, c'est un peu la même région, on va dire. C'est le nord de la France pour nous, mais c'est vrai que c'est le leader, du coup, en fait, de la production de graines de lin, terre de lin. Et c'est les premiers que j'avais contactés. C'est pour ça que ça s'est fait de cette manière-là. Mais,
voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut comme terre, déjà, à la base, pour cultiver donc, le lin textile, puisque vous avez fait le choix du textile. Vous ne vous posez pas encore la question du lin pour les graines, enfin pour l'alimentation ?
Non, la question ne se posera pas, je pense, parce qu'effectivement, la valorisation n'est pas la même. Et aujourd'hui, alors en bio, ce sera plus compliqué, parce que les conditions ont fait que, mais en conventionnel, peut-être qu'on pourra quand même récupérer de la graine. Donc voilà, mais l'idée c'est quand même plutôt de produire de la fibre, hein, qui est vraiment la valorisation principale et là où on peut tirer un revenu intéressant.
Quand même. Ouais, la valeur ajoutée est meilleure en fait quand on produit du lin fibre que quand on produit du lin alimentaire, c'est ça?
Exactement.
Ça, d'accord. Donc qu'est-ce qu'il faut comme terre alors? Comme qualité de terre?
Ben là on avait les deux cette année, alors un petit peu on a eu des parcelles avec de la terre légère des monts d'Arrée, on va dire. Avec plus ou moins de cailloux et voilà, donc c'était pas des terres on va dire à fort potentiel, mais malgré ça ça s'est quand même bien passé.
Ça s'est même très bien passé, je pense que pour une première année c'est même concluant. Oui, c'est vrai que comme maintenant on n'a pas les meilleurs sols du Finistère.
Ouais, c'est pas réputé, c'est, voilà, c'est
non
pas...
non, mais le lin est une plante comme ils disent assez ils appellent ça feignante. Mais elle ne demande pas un sol particulièrement riche.
Ah ouais, d'accord. Donc c'est une... de ce point de vue-là, c'est assez facile, entre guillemets. Et en termes de conditions climatiques, qu'est-ce qu'il faut?
C'est là que c'est plus compliqué. Donc cette année, ça a été très très compliqué. On s'en est bien sorti. Mais donc, le semis se fait fin février, début mars, ici, donc un peu plus tard qu'en Normandie.
Ouais.
Mais nous, cette année, on a semé le 17 mars. Ouais. Donc c'est 15 jours de décalage dû aux 15 jours de gel qu'on a eu début mars. Dernière, enfin, cette année.
Et après, il s'est mis à faire très beau.
Après,
non,
il fait très sec. Ouais. Donc, c'était assez simple à gérer. Sauf d'un point de vue conventionnel, les traitements du coup, phytosanitaires ne sont pas effectifs s'il n'y a pas de, s'il n'y a pas de pluie.
Ah ouais, sans pluie, on ne peut pas faire les traitements.
Bah, ça fait un film de rémanence qui n'est pas activé. Donc, mm-hmm. C'est pas au top
d'accord.
Pour le désherbage.
Bon. Et en bio, là, les conditions climatiques, ça allait enfin...
Non, c'était pas terrible, franchement, cette année. C'est pour ça que quand on nous parle de chance du débutant, je suis un peu sceptique parce qu'on a semé, effectivement, il y avait des gelées tardives, donc on a semé plus tard. Et en plus de ça, moi, quand j'ai dû réaliser les désherbages mécaniques en bio, on a eu beaucoup d'eau, beaucoup de pluie. Donc, c'était pas la bonne période. Voilà. Donc, c'était pas idéal. Et ensuite, même pour la récolte, on n'a pas été aidé en fait, hein, trop cette année. On peut dire que c'est une année moyenne quand même. Hein.
Et il faut beaucoup d'eau sinon après pour le lin, dans l'ensemble?
Oui, il faut beaucoup d'eau dans l'ensemble. Ouais. En fait, on a tout pour réussir quand même ici. Hein. Faut être rassuré.
On a eu un bon mois de juillet de votre point de vue alors.
Oui, si on veut, oui. Si, bah, en fait, le climat est quand même adapté ici. Hein. Clairement, on nous demande une humidité constante, pas dépasser 25 degrés. Donc, on y était à peu près. Hein. Donc après les c'est vrai que les terres c'est pas trop exigeant, mais cette année en tout cas on n'était pas sur une année exceptionnelle au niveau de la météo pour le lin. Donc
ceci étant c'était pas exceptionnel ici, mais c'était bien pire ailleurs en fait, puisque que ce soit dans les Hauts-de-France ou en Normandie, les récoltes sont très mauvaises cette année et dues à des conditions climatiques vraiment catastrophiques. On n'a pas eu ici. C'était pas exceptionnel, mais c'était mieux qu'ailleurs, en fait.
Et au final, votre récolte était satisfaisante, si on vous entend, c'est ça?
Oui, pour ma part, sur la partie conventionnelle, on est même au-delà des espérances.
Parce que normalement, par exemple, vous espériez combien de tonnes et vous avez eu combien de tonnes? Enfin, je sais pas.
On n'a pas le tonnage précis, mais en rendement, on est autour de 18% de plus que
prévu.
Ouais.
Ah ouais. Et vous, en bio?
Eh ben en bio, moi j'ai atteint ce que je voulais.
Votre objectif.
Donc, voilà. Maintenant,
c'est très bien comme on avait tablé sur 80 runes sur 4 hectares en bio et 78 de récolté. Donc...
Ouais.
Pour donner un ordre d'idée, moi j'ai fait le rendement qu'ils ont fait là-bas en conventionnel, d'après ce qu'ils disaient.
Ah ouais.
Donc la moyenne normande a été réalisée ici dans mes parcelles bio. Donc Benjamin est au-dessus en conventionnel. Quoi.
Ouais. Donc là, en tout cas, bonne expérience. Donc la récolte, c'est quand? C'est quelle période? Là, vous disiez le semis, donc vous l'avez fait en mars. Et la récolte, c'est?
Il y a deux étapes hein, pour dissocier la récolte. On arrache. Donc normalement, c'est en août. Donc là, on a fait la fête du lin. On a fait une semaine après l'arrachage, il me semble. Et donc l'enroulage, donc vraiment là où on extrait le lin du champ, c'est du coup courant septembre, quoi.
Oui, parce qu'on le laisse sur place, en fait, c'est ça. Et il est livré comme ça, une fois que vous l'avez enroulé, il est livré à l'usine qui fait le taillage.
Pour l'instant, il est stocké chez nous dans des bâtiments, mais il sera envoyé à l'usine, oui, en ballot, comme ça.
Mais pas tout de suite, alors?
Non, il y a encore dans l'hiver.
Ah oui, ouais. D'accord. Et tout ça, donc, c'est le processus normal, c'est ça, hein. Est-ce qu'il y a des menaces qui peuvent peser sur la plante une fois qu'elle a été arrachée puis,
Une fois qu'elle a arraché, donc elle reste sur le champ. Et c'est pour ça que cette année, ça a été assez compliqué. Donc les deux semaines de décalage qu'on a eu en mars à cause des gelées nous ont décalé de deux semaines, du coup, l'arrachage et l'enroulage. Et on a eu deux semaines assez compliquées avec beaucoup de pluie pour l'enroulage. Donc c'est, là, on a eu une perte aussi de rendement et de qualité sur la fibre.
Et sinon, il n'y a pas de rongeurs ou d'animaux qui s'attaquent quand on laisse la fibre comme ça dans le champ. Ça va, quoi. Enfin, y a pas de...
On n'a pas eu non, de dégâts non, là-dessus.
Ouais. Et alors, c'est intéressant aussi, là, les champs ont fait une veille, je suppose. Vous allez voir régulièrement chez les autres producteurs comment ça se passe, c'est ça
On est toujours, oui, on est toujours un peu à l'affût des informations. Puis c'est, le lin, c'est aussi un petit milieu, hein, donc les informations, les informations tournent. Enfin, c'est, voilà. Et puis, il faut dire aussi que les... Il n'y a pas de concurrence dure, en fait. Notamment les Normands qui sont venus aider Benjamin et Guillaume le disent. Il y a des débouchés et il y a un intérêt à ce qu'il y ait plus de production.
C'est ça, il y a une forte voilà. demande. Donc,
Je voulais juste revenir sur le... C'est juste un petit détail, mais la raison pour laquelle on laisse le lin sur le champ... entre l'arrachage et l'enroulage. En fait, il s'agit du rouissage.
C'est-à-dire c'est
ça, le rouissage, qui se faisait avant, il y a longtemps, dans des trous d'eau,
manuellement.
Des poulines, manuellement. Et là, qui se fait avec la rosée, avec l'humidité. Et l'idée, c'est de dissoudre la pectine qui lie la fibre et le bois. De la plante.
Ouais, c'est pour enlever l'écorce après, en fait.
C'est pour préparer le taillage, la séparation, effectivement, de la fibre du bois.
Ah ouais, donc on fait un rouissage juste en laissant le lin comme ça dans les champs. Et...
Juste, enfin, c'est un peu rapide, parce que pour en parler, il y a il faut retourner le lin.
Ah oui.
Une fois, deux fois, au moins.
Trois fois.
Et trois fois.
Ah ouais. Et oui, allez-y, dites-nous.
Oui, bah on a réalisé l'étape tous les deux. Le retournement du lin qui a pu se faire aussi grâce aux machines du coup venues de Normandie.
Oui, c'est aussi une question que j'avais, c'est-à-dire que vous n'avez quand même pas investi dans du matériel, vous l'avez loué, enfin comment vous avez...
Oui, c'était loué par le taillage, en fait, ceux qui nous rachètent la fibre.
Ah ouais,
c'est un titre expérimental hein, cette année, de toute façon.
Ah ouais. Parce que sinon, si vous continuez, il faudra que vous vous dotiez de vos propres machines
Ah oui, ça c'est impératif. Ouais. Mm-hmm. Parce qu'il y a quand même 400 km entre nous.
Oui, c'est ça. Donc il y a une machine à retourner le lin, c'est ça
Une machine à arracher, une machine à retourner, une machine à enrouler. Une machine aussi qui peut soulever la nappe pour la faire respirer, mais sans la retourner.
Ah ouais, tout ça. Mm. D'accord. Et donc la prise en main, tout ça, ça s'est passé comment
Bon, ça a été. Hein.
Ouais, ça a été. On a été aussi bien aidé du coup par Eric.
Donc c'est le producteur normand, c'est ça
Non, Eric, c'est de la famille à Guillaume. Mmh.
Et c'est son beau-père.
Son beau-père. Il est chauffeur agricole. Du coup, il a très, très bien débrouillé. Il nous a très, très bien aidés pendant toute cette saison.
Parce que sinon, les entreprises de travaux agricoles en Finistère, elles n'ont pas forcément la main-d'œuvre pour faire ce genre de travail, c'est ça
Ni les machines.
Ouais, c'est ça.
Bah, c'est très spécifique, en fait, comme machine. Et du coup, ils nous ont délivré les machines, les normands, mais pas les chauffeurs, quoi.
Donc, c'était un problème de plus à gérer, quoi.
Voilà. Donc, effectivement, heureusement, mon beau-père était là pour l'arrachage et l'enroulage, qui sont les deux machines les plus techniques, en fait. Nous, on s'est contenté de faire le retournement, qui est un peu, on va dire, plus simple.
Ça prend du temps quand même, non
si... Oui, bien sûr. Hein. Même si ce n'est pas toujours le cas, ça a été un petit peu compliqué quand même, suivant la météo, comme on disait, justement. Donc, voilà. Mais ça s'est fait. On a pris en main facilement les machines. Alors, il faut savoir qu'en bio, effectivement, du coup, je l'ai retourné plus de fois, parce que ça correspond à un désherbage quasiment du lin, en fait. Quand on le retourne, il revient propre, quoi. Et donc, voilà. Donc, Benjamin a eu moins à faire sur le conventionnel, quoi.
D'accord. C'est le lin bio en textile, c'est intéressant quand même. Enfin, il y a une demande de lin bio en textile. Parce que bon, en alimentaire, on comprend, il y a des raisons de santé, etc. Et en textile, c'est...
On va le vérifier cette année. Mais d'après les chiffres, il y a une forte demande. Même on a été à un rendez-vous là, du lin bio en France. Et on sentait qu'il y avait une réelle dynamique Donc maintenant, à savoir, voilà, est-ce que le consommateur sera prêt à payer ? Mais comme les quantités sont infimes, voilà, le peu de tirage qu'il y a sur le marché suffit en fait à, pour rémunérer les producteurs. Quoi.
C'est ça, vous allez trouver des débouchés de toute façon. Quoi. Mmh. Ouais. Oui,
François. Mais d'autant qu'il y a des... Je pense que la clientèle est là, et notamment, il y a une clientèle qui est prête à payer pour ça, en fait. Ça peut être aussi enfin, là, on voit, il y a des demandes, par exemple, suivant la qualité de lin et la grosseur du fil, même pour du lin pour la décoration ou autre, mais en haut de gamme. Mm-hmm. Donc voilà, c'est des marchés particuliers.
Et là, ce lin, il ira justement, il ira pour du textile vestimentaire ou il ira pour d'autres usages, vous savez pas ?
Ça, c'est choisi ensuite en fonction de la qualité du lin en lui-même. Ce sera décidé après le taillage et après le peignage. C'est l'usine qui décidera.
Ah oui, on saura que après la transformation de la quelle qualité. Mmh. Ah ouais. On peut pas évaluer déjà la qualité de votre lin à la récolte.
On a envoyé un échantillon, mais c'est approximatif. C'est juste pour vérifier qu'il y a bien de la fibre dans l'ensemble de la parcelle. Mais il n'y a pas de qualité plus que ça.
Mmh. Ouais. En fait, nous, on remet notre fibre au taillage. Eux s'en occupent. Et ensuite, c'est revendu à d'autres personnes avec qui on n'est pas en lien. En fait, quoi. Donc, on ne sait pas trop où ça part. Cette année, le lin breton, on va essayer de le suivre. Mais logiquement, les agriculteurs ne savent pas où partent leurs fibres.
Parce qu'il faut rappeler, on l'a déjà dit, hein, qu'il n'y a pas de filature en France, c'est ça ? Ou alors une qui commence, c'est ça ?
Il y a une filature dans l'Est, Emmanuel Lang. Il y a deux projets de filature là, qui vont voir le jour bientôt dans d'autres régions. Et il y a un projet ici dans le Finistère qui s'appelle l'Infini. Et qui en est encore au stade de projet, mais c'est un projet qui avance.
Vous êtes en lien avec Benjamin et Guillaume, avec ce porteur de projet ?
Oui, ils sont deux. Donc, on est en lien avec eux. Et on suit aussi l'avancée de leur projet.
Et votre expérimentation, puisque c'en est une quand même, est-ce qu'elle a été suivie par d'autres agriculteurs du coin, qui seraient éventuellement intéressés par produire du lin pour la fibre ?
Oui. Il y a eu des groupes d'échanges organisés. On a des agriculteurs qui ont suivi. Et maintenant, voilà, voir s'ils vont faire, s'ils vont passer l'étape pour en semer l'année prochaine.
Oui, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes intéressées. Comme tous les ans, même quand on s'est lancé, au tout début, on avait fait des groupes d'échanges. On a eu des réunions avec Sandrine Lefeur. On était entre 10 et 12 agriculteurs. Et au final, on était deux à avoir semé. Quoi. Donc, c'est vrai qu'ils ont un peu abandonné en cours de route. On espère que l'année prochaine...
Ouais, que vous allez faire plus d'émules. Et parce que vous, le bilan de cette expérience est bon, du coup, enfin, quel est-il ?
Si, concluant, très concluant, on est satisfait. D'un point de vue résultat, c'est très bon. Ouais.
Donc vous allez continuer ?
Oui, bien sûr. Hein.
Et même élargir, non ? Vous pouvez élargir les parcelles, enfin, vous avez encore du terrain éventuellement à consacrer à ça en plus ?
Bah, chez nous, proprement dit, ce sera les mêmes surfaces, hein, parce qu'il y a une rotation à respecter de 6-7 ans au minimum. Donc on restera sur les mêmes surfaces chez nous. Après, bien sûr, le but, c'est d'inviter d'autres agriculteurs à semer du lin aussi. Donc, voilà.
Alors, lin et chanvre en Bretagne, pour une association comme la vôtre, c'est super intéressant, cette expérience, je suppose. Comment vous en êtes servi déjà ?
Ben, servi, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, déjà, il y avait un profond intérêt. On a été présents sur tout le travail de Benjamin et Guillaume en suivant. Et puis en étant déjà, en plus, nous, on a essayé aussi d'avoir des traces de ce qui se passait, parce que c'est un événement historique pour nous. On a beaucoup travaillé sur l'histoire du lin et... en Bretagne, là, c'est un événement actuel qui est un précédent historique. Donc, ça, c'est important. Et après, il y a au-delà d'eux, il y a cette idée aussi de reconstruire une filière.
C'est ça.
Une filière lin textile. Donc, il y a la production. Guillaume et Benjamin sont en train de travailler aussi à ce qu'il y ait de plus en plus de producteurs autour de Comana, parce qu'il faut que ce soit sur un territoire assez restreint.
Oui, c'est plus rationnel pour justement mutualiser les machines et tout ça, je suppose.
Du point de vue logistique, oui.
D'accord.
Ça, donc ça, c'est donc et puis il y a des investissements qui seront à faire, notamment au niveau des machines. Guillaume a dit que c'était des machines spécifiques, mais qui dit machines spécifiques dit aussi coût élevé. Mmh. Et puis après, il y a les autres maillons de la chaîne. Il y a un projet de taillage aussi.
Ah oui, en Bretagne, quoi, enfin dans le Finistère même.
Oui. Ouais. Wow. Je sais pas si.
On pourra voilà. en reparler, on refera une émission.
Et puis ensuite, la filature et tout le reste. Donc, nous, on est attentifs à ça. On est aussi, on a aussi alerté récemment la région Bretagne sur ces questions-là. En fait, le lin et le chanvre font naître beaucoup de projets en ce moment. Et il y a besoin d'organiser les filières et de les accompagner au mieux. Et donc, parce qu'il y a d'autres régions aussi qui s'y emploient, et on ne voit pas pourquoi la Bretagne ne serait pas de celle-là.
Ah oui, il faut qu'on soit en pointe, hein. C'est sûr, on a la pression.
mais on a une singularité, hein. Je parlais d'histoire, on a une histoire forte par rapport à ces plantes et à ces fibres. Et quelque part, je pense que ça fait aussi l'identité de ces activités actuelles. Et d'ailleurs, voilà, on voit souvent des produits où c'est marqué depuis 1982, je ne sais pas moi, mais là on pourra dire depuis le 15e siècle.
Et oui, avec une petite interruption. Bon, bah merci.
Minime.
Merci en tout cas à tous les trois pour cette émission fort passionnante. Je pense qu'on retrouvera l'association Lin et Chanvre très bientôt dans l'EM. Merci. Dans un instant, c'est la deuxième partie de l'émission avec la Rade de Brest, qui est aussi un espace de pêche, et les actualités culturelles de l'Ogona d'Aoulas.